La littérature est le chant du cœur du peuple et le peuple est l'âme de la littérature. C'est en reprenant ces mots de Jean Zilan dans son livre « La vie aux mille couleurs » que je vous donne le bonjour et souhaite la bienvenue à vous, chers amoureux de la littérature. C'est aussi un grand bonheur et un privilège pour moi et toute mon équipe de vous savoir très nombreux à l'écoute de votre programme « Les plumes d'ici et d'ailleurs ». Les plumes d'ici et d'ailleurs, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui nous permettra de voyager dans la galaxie littéraire et découvrir les auteurs qui ont marqué la littérature camerounaise, africaine et mondiale. Pour cette édition, nous nous intéressons à la littérature africaine de la diaspora en France. En ce début de 21e siècle, elle connaît une nouvelle expansion à travers la plume de jeunes écrivains qui jouissent d'une tradition inaugurée par les premiers intellectuels et écrivains africains. Dans le sillage de cette tradition, nous assistons à la prolifération de la littérature dite de la migritude, de l'exil, de l'immigration ou encore de l'émigration. Une littérature dans laquelle les auteurs tentent d'unir autour des mêmes thèmes les expériences en terre d'exil et les souvenirs de leur terre d'origine. Ce jour, nous allons nous intéresser à la plume d'un prodige de cette mouvance littéraire. Il est franco-camerounais, installé en France depuis 1980. Il a reçu une éducation religieuse, mais son amour pour l'enseignement et l'écriture ont été plus forts que lui. Dans sa génération, il est l'un des auteurs les plus prolifiques et les plus adulés par la critique. Il est l'auteur du roman à succès « Je la voulais lointaine ». Il s'appelle Gaston Paul Effa et nous aurons l'immense joie de l'accueillir dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission. À la présentation de ce programme, je suis Anicette Donfac. À la mise en onde, j'ai bénéficié de l'expertise de Maxino. À tout de suite pour la suite.
Une fois non, deux fois non, non, trois fois non, 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 quatre fois non, 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 non.
Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette édition des Plumes d'ici et d'ailleurs, votre émission littéraire hebdomadaire. Et nous accueillons Gaston Paul Effa, nous nous intéressons à sa production littéraire. Eh bien, Gaston Paul Effa est né en 1965 à Yaoundé, au Cameroun. Donné à des religieuses alsaciennes par son père, il étudie auprès d'elles pendant ses premières années au Cameroun. Après son secondaire en France, il poursuit des études de théologie et de philosophie en Lorraine, matière qu'il enseigne aujourd'hui dans un lycée de Strasbourg. Auteur de plusieurs romans, il reçoit en 1998 le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire pour son œuvre romanesque « Ma ». Il tombe amoureux de la littérature dès le bas âge. Durant cette enfance, il recevra des dictées hebdomadaires pendant lesquelles il recevra comme punition un coup de fouet pour chaque faute. Ceci contribue à réveiller en lui un amour et un désir pour le français bien écrit. Bien que pour lui, le français était, je cite, « la langue des colons » et la manipuler était un acte de dévotion qui symbolisait la réussite intellectuelle et matérielle. Devenu écrivain pour Gaston Paul Effa est dès lors un moyen d'exorciser son passé de souffrance mêlée de plaisir. Il va donc, une fois adulte, décider de vivre un second exil. Resté en France, il s'est réfugié dans la langue pour réécrire sa terre natale, pour redonner une voix à ce continent qui bégait. C'est pour cela qu'il dit lui-même « L'Afrique est mon pays ». La langue française, ma patrie. L'écriture est donc un moyen pour l'auteur de faire renaître l'Afrique, de lui redonner une identité. Il se passe de la fantaisie car le vrai visage ne peut se dessiner qu'à travers une langue élémentaire, dit-il. Pour lui, finalement, l'écriture est un geste inaugural qui réitère le don total de la mère. L'acte d'écriture est d'ailleurs éminemment féminin. La personne qui écrit s'offre sans réserve.
Est-ce que tu connais moi ? Est-ce que tu connais moi ?
L'intense production littéraire de Gaston Poliffa centre sa thématique sur la condition de l'exilé dans son nouvel espace et la tentative de reconstruire les ponts coupés avec la patrie d'origine. L'écrivain se fait définitivement un nom dans la galaxie littéraire à travers une série de romans qu'il va publier. Parmi les plus importants, nous avons le roman Ma, publié en 1998 aux éditions Grasset. Gaston Poliffa compose dans ce livre ce qu'on pourrait à juste titre qualifier d'hymne à la femme et à la féminité. C'est avec le titre Ma, cette syllabe universelle qui évoque à la fois la splendeur et la douceur de la maternité. Ma est bien cela, un cantique qui célèbre le bonheur et la douleur d'être mère sur ce continent tissé de mystères qu'est l'Afrique. L'enlèvement de son premier enfant, offert aux religieuses par son mari, plonge sa bête dans une nuit profonde qui ranime les souvenirs de sa prime enfance à Obala, où déjà elle avait subi les mortifications dues à sa condition de femme. Après un mariage traditionnel avec un polygame, les humiliations redoublent. Troisième femme de son mari, sa bête tente en vain de se faire une place dans sa nouvelle famille qui la réduit en esclavage. Lorsqu'elle rencontre Ma, sa marraine, féticheuse de son état, elle espère, grâce à son aide, pouvoir ramener à elle son premier-né Duo. Commence alors un long parcours initiatique qui mènera sa bête de sorcier en sorcier jusqu'à ce qu'elle rencontre Emmanuel avec lequel elle renaîtra dans le feu de la passion. La célébration d'un monde fascinant, empreint de magie et de sensualité diffuse, ainsi que la ferveur du style, parviendront seuls à dénouer ce destin. Avec ce livre, Gaston Poliffa confirme ses dons de prosateur lyrique et incantatoire.
Est-ce que tu connais moi ? Est-ce que tu connais moi ?
En 2008, aux éditions Anne Carrière, Gaston Poliffa publie « Nous, enfants de la tradition ». L'auteur nous dévoile un fait dont on parle trop rarement, car au moins un Africain émigré sur deux adresse les trois quarts de son salaire à sa famille restée sur le continent afin d'assurer sa subsistance. Ocellé, l'aîné de 33 enfants, est envoyé en France où il fait de brillantes études d'ingénieur. Marié à une Française, père de deux enfants, il expédie tout son salaire en Afrique, ce qui le mène à la rupture conjugale. Le narrateur n'a de cesse de se justifier en remontant le cours de sa mémoire, dégageant peu à peu le modeste gisement d'une existence vouée au respect de la tradition. Cet homme dénué d'agressivité qui n'élève jamais la voix, avec quel acharnement il dénonce la perpétuation d'un héritage. Souvent, il invoque la peur, sa peur. Au fil des mots, il redessine le trajet de sa vie, à laquelle il offre un contour tout neuf et une nouvelle dignité. Mais un homme seul peut-il s'opposer à un peuple conservateur qui a tout intérêt à entretenir une telle dépendance, menacé de mort, frappé par la maladie? Ocellé exprime la dérision d'un combat inégal dans une société qui le comprend à peine. Et puis l'autre roman par lequel le prodige franco-camerounais Gaston Poliffa se fait connaître au sein de la critique, eh bien, s'intitule « Le Dieu perdu dans l'Ebe ». Dans cette sorte d'essai, il nous fait savoir que ni religion ni philosophie, l'animisme est une compréhension neuve de la nature et sans doute aussi un art qui fait vivre face à un monde agité, nous apprend à mieux habiter le monde. Et si l'animisme s'avérait la seule possibilité de sauver l'homme, Par une nouvelle façon d'être au monde, cette pensée souvent méconnue se donne à vivre comme une contre-philosophie. Cette initiation est un réveil de l'être tout entier, une nouvelle cosmogonie qui donne à lire. Il s'agit de réapprivoiser son corps en réapprenant, par exemple, à respirer, à contempler, à se dessaisir du sens des choses, à apprendre à oublier le temps. Face à un monde agité et au seuil du chaos, l'animisme invite à retrouver l'aspect essentiel des choses. Instaurant un dialogue entre la philosophie occidentale et cette philosophie africaine, Gaston Poléfa décentre la perspective et change de focale. Et si une nouvelle révolution était en marche, et si, contrairement à l'idée reçue, c'était la nature qui humanisait l'homme, eh bien, les réponses à ces questions sont traitées de façon magistrale dans cet opus qui s'intitule « Le Dieu perdu dans l'Èbre ». Entre autres productions de l'auteur camerounais, nous avons « Rendez-vous avec l'heure qui blesse ». Nous avons « À la vitesse d'un baiser sur la peau » aux éditions Anne Carrière en 2007. « Voici le dernier jour du monde » aux éditions Rocher en 2005. « Cette langue est bien un feu » aux éditions Laquais en 2004. « La salle des profs » édition Rocher en 2003. « Le livre de l'Alliance » aux éditions Bibliophane 2003 également. Yaoundé instantané aux éditions Laquais en 2003, Le Cheval Roi, Quand le ciel se retire, publié à l'Amatan en 2000, La Saveur de l'Ombre, publié également à l'Amatan en 2000, et Je la voulais lointaine, publié aux éditions Actes Sud en France en 2012, ce roman que nous allons explorer en profondeur dans un très court instant. À tout de suite pour la suite.
Solange, je ne parle même pas français.
Mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que vous êtes à l'écoute des Plumes d'ici et d'ailleurs. Les Plumes d'ici et d'ailleurs, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui revisite le monde des lettres et vous permet de découvrir les auteurs qui ont marqué la littérature camerounaise, africaine et mondiale. Pour cette édition, nous explorons la production littéraire du Camerounais, du franco-camerounais Gaston Poléfa. Parlons à présent de son roman « Je la voulais lointaine » paru aux éditions Actes Sud en 2012. Le titre de ce roman de Gaston Poléfa pourrait suggérer une banale histoire d'amour. Entre autobiographie et fiction, ce roman évoque la difficulté de conjuguer tradition et modernité, devoir clanique et désir d'indépendance. Mais Je la voulais lointaine révèle une autre forme d'attachement, celle complexe, tourmentée d'un déraciné envers sa terre natale. Entre autobiographie et fiction, le récit s'ouvre sur l'initiation d'un jeune garçon au nom d'Aigle Obama, seul oiseau capable de tutoyer le soleil sans se brûler les yeux. Sentant sa fin proche, son grand-père, féticheur pétri de pouvoirs mystiques millénaires, lui transmet un sac totémique protecteur de la tribu. Effrayé par les responsabilités qui lui incombent alors, Obama enterre l'encombrant héritage au pied d'un oranger avant de se sauver en France, le pays de Molière, où il pense trouver le salut. Ses premières années d'exil sont idylliques. Intégré dans la société française, il y trouve de l'amour et du travail. L'Afrique pesante, il la tient à distance, il la veut lointaine. Mais progressivement, le rêve s'étiole, vit au cauchemar, accablé par une série de malheurs, et réalise qu'il a vécu en apparence et il culpabilise d'avoir abandonné les siens. Tiré en arrière par le passé, il décide alors de revenir vers eux et de retrouver le sac enterré, symbole de ses origines enfouies. Je la voulais lointaine raconte ces instants précieux pendant lesquels il se ressource, apaisé, il renoue avec son être. La construction de son moi profond a pris du temps, mais Obama est enfin parvenu à mériter son nom, synonyme de renaissance perpétuelle. L'abandon de la terre natale et de ses traditions se manifeste autant par son déplacement d'un continent à l'autre que par son refus de garder le sac totémique que lui avait légué Élé, son grand-père défunt, mystique et légendaire. Brillant étudiant, Obama réussit un concours d'enseignement et est promu professeur de philosophie à Verdun. Après 3 années pendant lesquelles il mène une carrière. Comme le premier roman de Gaston Poléfa, Tous bleus, paru en 1996, Je la voulais lointaine est bâti autour des thèmes récurrents de l'enfance, de l'exil et de la mystique de la vie traditionnelle africaine. Un air de déjà-lu, notamment dans L'enfant noir de Kamra Lai ou dans L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane qui campe l'écartèlement des Africains entre deux mondes. Il quitte le continent pour un Eldorado, mais reste coincé entre la tradition et une modernité qui leur faut conjuguer. Fallait-il revenir sur ces thèmes largement abordés par les premiers romanciers africains postcoloniaux? Assurément, estime Gaston Poléfa, qui a pris le parti de ne fournir aucun repère temporel. Je voulais en faire, dit-il, un récit à visage humain, qui peut concerner n'importe qui, n'importe où, les Africains d'hier comme ceux de demain, tous embarqués sur le même radeau. Pour lui, il s'agit tout simplement d'apprendre à être dans son ambivalence, la rencontre avec son nouvel univers, lui ayant appris que le monde de demain est un monde métissé. Drame antique, plus prosaïquement, Je la voulais lointaine est aussi l'occasion pour Gaston Poléfa de faire le point, de soigner des plaies qu'il portait en lui et qui n'ont plus lieu d'être. Tout est moi et j'assume profondément, confie-t-il, on écrit que ce qu'on est et qui on est. Ainsi, quand on demande à l'auteur narrateur de s'occuper des littératures francophones au quotidien, le républicain lorrain le vit-il d'abord comme un affront avant de réaliser que l'on peut être d'origine africaine et produire une littérature qui transforme l'humain? Au final, la dernière œuvre de Gaston Poléfa, puisqu'il s'agit de cela, est une manière de voir le monde, de l'habiter et de dialoguer avec lui, mais aussi une manière de prendre de la distance avec ce que l'on est pour mieux s'y retrouver. Écrit par fragments et structuré comme un drame antique, Je la voulais lointaine restitue des tranches de vie par petites touches comme si l'auteur ne voulait pas trop en faire. Tout en suggestion et en pureté, son écriture lui permet d'explorer efficacement la symbolique et la poétique de cet écartèlement entre deux mondes, une double appartenance dont est entre les deux une faille, un puits d'images, un puits de souvenirs. Riche, chargé comme dans un conte merveilleux, son écriture fait galoper l'imaginaire du lecteur dans un monde peuplé de symboles, transformant chaque vie en légende. Mesdames, messieurs, amoureux de la littérature, chers lecteurs, vous êtes toujours à l'écoute de votre tranche d'antenne Les Plumes d'ici et d'ailleurs. J'annonçais en introduction de ce programme que nous allions recevoir en deuxième partie l'écrivain Gaston Poléfa qui est déjà bien installé dans ce studio. Alors, Gaston Poléfa, bonjour. Merci d'accepter de nous accorder quelques précieuses minutes de votre temps. Alors, lorsqu'on lit l'histoire d'Obama dans votre roman Je la voulais lointaine, on a comme cette impression que son parcours est finalement identique à celui de l'auteur du roman que vous êtes.
Lorsqu'on écrit, il y a toujours de soi, sinon c'est même pas la peine de prendre la plume pour signer le premier mot. Effectivement, Obama, puisque c'est le nom du narrateur, quitte l'Afrique pour s'installer en Occident et précisément à Strasbourg. Obama me ressemble, puisque le personnage que l'on campe se nourrit de ce que vous avez été, de votre histoire, de ce que vous êtes, et puis de vos perspectives d'avenir. Vous savez, Einstein disait dans un superbe livre « Comment je vois le monde ?» Donc ce personnage me ressemble. Je ne vais pas avoir la prétention de Flaubert qui disait « Madame Bovary, c'est moi ». Je ne dirai pas ça. Mais Obama a tout de moi.
Eh bien, dans ce roman, il y a des choses qui sont très amusantes parce qu'il arrive à Strasbourg. On imagine le choc de la culture. La réalité est totalement différente. Il regarde la télé, c'est marquant. Il se rend compte que les vieux sont des hospices, pas comme en Afrique où c'est complètement différent. Et autre chose, je vais enchaîner tout de suite, la langue également, il parle un français très académique et c'est très parfait, ce qui le rend un peu différent dans la société. Et on va même jusqu'à se moquer de lui. Il y a comme ça beaucoup de choses qui vont lui arriver dans cette société.
Il y a en Afrique la France imaginaire qui n'est pas toujours la France réelle. La France imaginaire est celle que tous les Africains ont rencontrée dans les livres. La première fois que j'ai entendu parler de la France, c'était dans une édictée, alors que j'étais petit enfant, qui commençait par « L'hivernage s'en allait à regret ». On demande à la sœur Marie-France qui nous faisait la dictée « Qu'est-ce que c'est que l'hivernage ?» Je me dis « Ah, l'hiver, c'est une période où il y a le froid. » Et nous a fait tout un descriptif du froid, de la neige qui nous a fait rêver au point que, lorsque moi, petit enfant, suis arrivé à Strasbourg, la première chose que j'ai faite en hiver, c'est de manger la neige pour ressembler quasiment à ce blanc, puisqu'on nous disait que lorsque on arrivait en France, on devenait blanc. Et vous avez vu que les femmes africaines se décapent la peau pour ressembler à cette neige. Et on a aussi comme ça d'autres fantasmes dans l'imaginaire, c'est aussi cette langue. Lorsqu'on parle bien en Afrique la langue française, on dit qu'on la parle comme un français. Le choc, c'est que lorsqu'on arrive en France, on se rend compte que cette langue maternelle n'est même pas bien parlée par les Français eux-mêmes, et que ceux qui viennent des continents de colonie, l'Afrique, la chérit, la considère comme une patrie, au point de la parler comme si c'était leur propre langue. Vous savez que le Cameroun a 230 langues différentes. Et la langue française se nourrit, elle est irriguée par toutes ces langues que parle le Camerounais, au point que lorsqu'on parle, on est quasiment encore comme Montaigne au XVIe siècle. Parce qu'on est dans les archaïsmes, on est aussi dans des néologismes, on est dans un métissage de langues extraordinaire. Donc c'est véritablement ce que vous dites, il y a l'imaginaire. Lorsque la rencontre se fait avec le réel, ça donne des choses extraordinaires et ça fait des écrivains.
Alors, on va aller un peu plus loin dans le livre. Eh bien, Obama, il s'installe dans la ville et il fait sa vie, il fait ses études et devient professeur. Et il y a quand même un moment où l'Afrique le rejoint et a cette relation avec son grand-père qu'il a quelque part enfoui et vous déclarez à un niveau, je dois reprendre la phrase, c'est important, je cite, « La réussite, c'est quand même bizarre quand elle arrive à un noir. » Il va vivre un événement dans son milieu professionnel, il va revenir à l'Afrique dans sa tête.
Il revient à cette Afrique qu'il a fui, dont il a eu le sentiment de s'échapper. Il faut rappeler qu'Obama, elle est née d'une famille traditionnelle. C'est-à-dire celui à qui on a transmis, après les initiations, une initiation s'est mise sur la voie, on lui a transmis les secrets de sa tribu. Et ces secrets sont dans un sac totémique, le sac protecteur de cette tribu. Et c'est le grand-père qui, avant de mourir, va lui léguer ce sac. Et si vous avez fait attention, cet homme, quand il meurt, on l'a retrouvé dans la forêt, assis. Il est assis au pied d'un arbre. Le sac n'est plus là, puisqu'il a donné à son petit-fils. Il se trouve que le fait d'être assis fait de lui un veilleur. L'enfant qui va hériter du sac doit avoir comme une pression sur les épaules. Le grand-père est toujours là. Voilà qu'il faut aller en Occident, il faut aller faire ses études en France, à Strasbourg. Et il ne trouve rien de mieux que de se débarrasser de la vouloir lointaine, cette Afrique qui est toute dans le sac, puisqu'il va l'enfouir au pied d'un oranger. Et il se sauve. Il vient vivre son rêve africain qui a été d'aller en Occident, en France. Vivre à la française, la vie à la française. Tout lui réussit. Il fait de brillantes études. Il parle cette langue comme personne. Il a aimé le symbole de la femme africaine, c'est l'alsacienne. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds, etc. Et puis, cette Afrique se rappelle à lui, puisque lorsque les malheurs arrivent, celle qu'il voulait lointaine est là, qui bat dans son cœur. on lui dit, tu as fui tes racines, il va falloir maintenant les rechercher. Si tu veux vivre une vie d'homme, tu dois réconcilier tes deux mamelles, la terre africaine et la terre française. Et voilà que il retourne, c'est ça qui fait la force de ce roman, c'est que l'exil n'est pas un départ, l'exil est un retour.
Justement, vous faites bien de le rappeler, l'exilé, c'est celui qui se tourne vers ce qu'il a vécu, ce qui tombe bien avec ce que vous expliquiez à l'instant. Peut-être une dernière question, et je pense qu'on ne peut pas y échapper. Nous avons sous la main un roman initiatique, et de nos jours, lorsqu'on appelle le héros d'un livre Obama, j'ai envie de croire que ce nom n'est pas anodin. Il y a quand même une référence forcément à l'ex-président américain et même à un nom d'oiseau, comme vous le mentionnez dans les premières lignes du livre. Alors pourquoi le nom Obama et pas un autre nom ?
J'allais dire, c'est Obama qui m'a choisi, parce que c'est un prénom, c'est plutôt un nom panafricain. On le trouve partout en Afrique, les Obama sont comme des meilleurs en Alsace, ou des Martins. Et donc Obama signifie l'aigle. C'est le seul oiseau qui arrive à s'élever très haut dans le ciel, qui tutoie le soleil sans se brûler les yeux. Donc Obama, c'est le messager entre le rêve et la réalité, entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes. C'est un peu notre Mercure africain, Hermès. Et ce garçon va donc être celui qui va faire le pont entre les deux continents, qui a compris qu'il est temps de réconcilier les deux êtres du monde, l'Occident et l'Afrique, pour être un, qu'on cesse ce discours qui revient sans cesse lancinant et fatigant. Êtes-vous français ? Êtes-vous camerounais ? C'est fini, on va lui demander maintenant, puisque c'est ça que revendique Obama, êtes-vous un homme ? Il va rassembler tout ce qui était épars en lui pour redevenir un homme vrai, qui sera complètement français, autant qu'il sera complètement africain.
Voilà qui est bien dit. Obama est un nom panafricain et désormais transcontinental, en même temps qu'il représente cet oiseau qui tutoie le soleil sans se brûler les yeux. Obama est le messager de la symbiose et de l'unification des réalités. Si la littérature est l'âme du peuple, la lecture est la respiration de l'âme. Alors, mesdames, messieurs, lisez pour nourrir votre âme. C'est avec ces mots que nous mettons un thème à cette prédiction des plumes d'ici et d'ailleurs. Merci à Zouairatou Yaya pour m'avoir aidé à préparer et à réaliser cette édition. Le montage et la mise en onde de ce programme ont été assurés des mains de maître par Maxino. Supervision générale David Bayan. Pour porter la voix de cette équipe, je suis Anicette Donfac. Au plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition de Voyage à travers les plumes d'ici et d'ailleurs. Talibé am nga psiri bu mat sa muy sawasi la ci yonu bamba waye ko ci xar xolam señ fallu lay bege buel man lima xir ci mom billah xawma ko sa fuma jaxle señ fallu lay wo Man Yusuf Man Sen, Sen Fallu Lai Begay.